Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, mes saints anges gardiens. Veillez sur nous, Saint Bélis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous arrivons à la fin du traité sur le mariage. Dans le supplément de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, donc ce traité couvre les questions 41 à 68, et nous en sommes à la question 63. Donc, saint Thomas va d'abord nous parler des secondes noces. Ce qu'il appelle seconde noce, c'est-à-dire remariage d'une personne veuve qui se remarie pour la deuxième fois après la mort légitime de son, la mort naturelle de son épouse. Bon. Alors, est-ce que ces secondes noces sont permises? Est-ce que c'est de nouveau un sacrement? Donc, voilà ce que va expliquer saint Thomas. Donc, il cite saint Paul. Je veux que les jeunes veuves se marient et aient des enfants. Donc, les secondes noces sont permises. Hein. Le second mariage est donc bien un sacrement, puisque le sacrement de mariage est rompu par la mort d'un des deux contractants, d'un des deux époux. Après la mort d'un des deux époux, le mariage est rompu. C'est quelque chose que nos fidèles ont beaucoup de mal à accepter, psychologiquement c'est un petit peu dur. Une fois que l'épouse est morte, le mariage est complètement rompu, c'est-à-dire que vous n'êtes plus marié femme. Et donc même au ciel, vous serez, si vous êtes au ciel j'espère, mais vous serez évidemment enveloppé par la gloire divine, mais vous ne serez plus marié et femme avec votre épouse, qui a été votre épouse pendant le temps de la vie ici-bas, parce que justement le sacrement est rompu. Donc le deuxième mariage religieux est un mariage sacramentel. Et c'est pour cela que si une jeune fille se marie avec un veuf, même un veuf qui a déjà eu des enfants du premier mariage, on donne à cette jeune fille qui devient épouse la bénédiction nuptiale. Alors, voyons un petit peu un problème assez important, le devoir conjugal. Le mot « devoir » dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça relève de la justice, de la vertu de justice par laquelle on doit rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc il y a un contrat avec un devoir. Devoir de rendre le devoir conjugal et le devoir de, dans certains cas même, de demander le devoir conjugal. Bon, même si la demande n'est pas absolument nécessaire tout le temps, par contre, le devoir de rendre le devoir conjugal est une obligation sous peine de péché grave. Lorsque cette demande est raisonnable, il est évident que ce n'est pas un péché pour une épouse, par exemple, de se refuser à son mari une fois de temps en temps parce que, parce qu'elle est fatiguée, parce que elle a passé toute la journée à veiller un enfant malade et qu'elle est crevée et qu'elle donc elle souhaite pouvoir s'endormir un peu plus tôt le soir. Bon, mais il y a une faute grave certainement pour un époux de se refuser sans raison grave. Pendant une longue période de temps à ce devoir conjugal. J'en ai déjà parlé une fois, je redis un mot là-dessus parce que c'est quelque chose de très important et c'est un peu un sujet tabou chez les femmes. N'oubliez jamais que si le bon Dieu a voulu que les femmes passent en état de ménopause à partir de 45 ans plus ou moins, ça dépend un petit peu des gens, il n'y a pas de ménopause pour les hommes. Et donc il faut que les épouses comprennent que même si elles ont passé sont passées en ménopause, donc souvent elles n'éprouvent plus le besoin de l'acte conjugal parce qu'elles se trouvent trop vieilles, parce qu'elles trouvent que c'est je ne la regarde plus, puisqu'elles ne peuvent plus avoir d'enfants de toute façon. L'homme, lui, n'a pas de ménopause. Il passe pas par cet état de ménopause. Il est souvent, à cause de son travail, sa situation professionnelle, toujours exposé à beaucoup de tentations. D'autant plus que, malheureusement, dans bien des bureaux, les jeunes secrétaires sont partout comme ça, bien sûr, heureusement. Mais enfin, il y en a beaucoup qui ont tendance à tourner un petit peu autour des personnes un peu âgées dans le bureau parce qu'elles pensent qu'elles ont, ces personnes plus âgées ont plus de facilité financière. Et donc, elles se tournent un peu, parfois autour des hommes en fin de vie professionnelle. Et donc, il faut que l'homme qui est marié, ben, puisse justement parler de ces choses-là à son épouse. Et une épouse qui se refuserait de façon systématique à son devoir conjugal par rapport à son mari, sous prétexte qu'elle est trop âgée pour avoir des enfants, que ça l'intéresse plus, pécherait gravement parce qu'elle serait responsable du stress provoqué chez son mari et parfois, malheureusement, dans certains cas, responsable des péchés du mari qui pourrait être tenté ben, de trouver d'autres satisfactions illégitimes. Ça resterait un péché pour le mari, d'accord, mais l'épouse est responsable si ces péchés sont provoqués par la froideur de l'épouse qui ne veut plus remplir son devoir. Donc il y a un devoir conjugal. Ça va dépendre de la vertu de justice. Alors saint Thomas se pose d'abord la question de savoir si chacun des époux est tenu de nécessité de précepte de rendre à l'autre le devoir conjugal. Donc un précepte, dit saint Thomas, oblige chacun des époux à rendre à l'autre le devoir conjugal. Sous-entendu, lorsque ce devoir conjugal est ce dû conjugal est demandé de façon raisonnable. Il peut y avoir des façons, des obligations, des demandes déraisonnables, soit parce que le lieu ne convient pas, soit parce que le temps ne convient pas, soit parce que la fréquence est vraiment trop élevée. Imaginez un époux qui demande le dû conjugal 3 fois par jour, 3 fois par nuit à son épouse. Bon, elle aurait le droit de dire, bon, ça fait un peu trop. Là, il n'y aurait pas de faute. L'ordre naturel, dit saint Thomas, demande en effet que chacun se perfectionne d'abord lui-même avant de communiquer à autrui sa propre perfection. Tel est également l'ordre de la charité qui perfectionne la nature. Donc on se sanctifie par la pratique de son devoir d'État. Et donc le devoir conjugal entre deux époux, mariés religieusement, est un moyen de sanctification. Donc ce n'est pas quelque chose de sale, ce n'est pas quelque chose une triste obligation, comme disent certains, c'est un moyen de sanctification. De rendre le dû conjugal entre deux époux légitimement mariés est un moyen de sanctification, un acte vertueux. Alors on entend parfois des drôles de choses de la part de certaines épouses qui ne se rendent plus compte du tout de ces choses-là. Hein? Donc l'épouse, dit saint Thomas, doit donc rendre le devoir conjugal à son époux, même si l'époux est malade, par exemple. Il donne comme exemple, même si l'époux est atteint par la lèpre, bien qu'elle ne soit pas obligée de cohabiter avec lui, car l'acte conjugal ne propage pas aussi rapidement le mal qu'une cohabitation habituelle. Et quand même, bien même, naîtrait de leur union, de leur rapport à un enfant malade, il vaut mieux pour lui exister ainsi que de ne pas exister du tout. Alors, le mari est-il tenu, c'est une question très pratique que va couvrir saint Thomas d'Aquin ici, le mari est-il tenu de rendre le devoir conjugal à son épouse lorsqu'elle ne le demande pas? Donc voilà ce que répond saint Thomas. La réponse est importante, il faut bien la méditer. Le devoir conjugal est pour la femme un remède contre la concupiscence. Pas d'ailleurs, pas simplement pour la femme, c'est aussi un remède contre la concupiscence, aussi pour l'homme. N'oubliez pas que c'est ce qu'on appelle la fin secondaire du mariage. Donc, le médecin qui est à charge d'un malade est tenu de soigner sa maladie, même si celui-ci ne le demande pas. Donc, le mari doit donc rendre à sa femme le devoir conjugal, même s'il ne le demande pas. Bon, il peut y avoir des temps pendant lesquels les époux, librement, choisissent de pratiquer la vertu de chasteté. C'est tout à fait possible, bien sûr. Avant, au Moyen Âge, les temps de foi. Par exemple, souvent, les époux pratiquaient la chasteté pendant la période du carême, parfois même pendant la période de l'Avent. Mais même si deux époux ont décidé de façon, en union, si vous voulez, l'un et l'autre d'accord avec cette décision, si un mari, une épouse demande en mercredi décembre, se disent bon ben voilà, on va faire un sacrifice pendant le temps du carême qui arrive maintenant, qui commence aujourd'hui, eh bien si vous êtes d'accord, donc eh bien nous allons pratiquer la chasteté pendant tout le carême. Bon. Et puis l'épouse est d'accord, donc il pratique la vertu de chasteté pendant le carême. Et si au bout d'un certain temps le mari se rend compte que ça devient impossible pour lui, il a trop de tentations à cause de son travail ou d'autres raisons, et qu'il dit à son épouse, écoutez, voilà, j'ai vraiment trop de tentations, je vous demande le duc conjugal de pouvoir venir physiquement avec vous parce que j'ai trop de tentations. Et l'épouse doit accepter. Elle n'a pas le droit de dire à son époux, ah ben on a promis au début du carême qu'on n'aurait pas de relation pendant tout le carême, donc je me refuse à vous. Non, on ne peut pas dire ça. Il y a un devoir grave. Donc, lorsque sa femme ne le lui demande pas par des paroles, le mari est donc tenu de lui rendre le devoir si quelques signes extérieurs manifestent sa volonté. Hein? Certaines femmes, certains maris sont assez pudiques dans ce domaine, ce qui est d'ailleurs pas quelque chose de mauvais, au contraire. Les épouses sont très pudiques naturellement dans ce domaine-là. Eh bien, l'homme doit savoir deviner un petit peu quel est le désir de son épouse, et l'épouse doit savoir aussi deviner quel est le désir de son époux. Hein? Saint Thomas se pose ensuite la question de savoir si l'époux et l'épouse, le mari et la femme, jouissent des mêmes droits pour l'acte du mariage. Donc, Saint Thomas répond, et pourtant Dieu sait si l'Église ne croit pas en l'égalité, hein, l'homme et la femme, dit Saint Thomas, sont égaux dans l'acte conjugal. Donc il y a un double devoir d'État, et pour l'homme et pour l'épouse. Bon. Même si, dans la pratique, souvent, les hommes ont davantage besoin de cet acte conjugal que les épouses, ou notamment, je vous l'ai déjà expliqué, parce que l'homme n'a pas de ménopause, et donc très souvent, un homme qui est dans la cinquantaine, par exemple, un mari qui est dans la cinquantaine, peut encore avoir besoin de cet acte, alors que l'épouse pense ne plus en avoir besoin. Et donc, par charité et par justice, l'épouse est tenue d'être à la disposition de son mari pour justement aider son mari à remplir aussi son devoir d'État dans ce domaine. Alors, le mari et la femme, et l'épouse, peuvent-ils, sans le consentement l'un de l'autre, faire un vœu contraire au devoir conjugal? Donc, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question. Donc, Saint Thomas va citer Saint Paul aux Corinthiens, « Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord et pour un temps, par exemple le carême, afin de vaquer à la prière. » Personne ne peut faire du bien d'autrui l'objet d'un vœu. Or, le mari n'est pas maître de son corps, puisque son corps appartient à sa femme. Par le mariage, l'époux donne à son épouse le droit à l'usage du corps pour tous les actes nécessaires à la procréation, des enfants à venir, et l'épouse donne à son mari réciproquement le même droit sur son propre corps. Par conséquent, l'époux ne peut pas, sans son consentement, faire le vœu perpétuel ou temporaire de continence. L'inverse est également vrai. Une épouse ne peut pas, sans le consentement de son mari, faire le vœu perpétuel ou temporaire de continence. D'accord ? Faire un tel vœu sans l'accord du conjoint serait commettre une faute, et l'époux coupable ne devrait pas accomplir sa promesse, mais faire pénitence pour l'avoir prononcée indûment. C'est quelque chose d'imprudent. Et encore une fois, même si les épouses souhaitent faire quelque chose de ce genre, eh bien, pour une raison grave, proportionnée, ils ne peuvent pas arriver à tenir leur engagement, donc dans ce cas-là, l'épouse ou l'époux doivent arrêter leurs vœux et se donner l'un à l'autre. Il y a une obligation, aussi c'est une note importante, surtout dans le monde moderne, il y a une obligation plus grande pour la femme de suivre son mari que pour le mari de suivre sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la femme, dans le mariage chrétien, c'est la femme, l'épouse, qui rentre dans la vie de l'époux, et pas l'inverse. C'est pour cela que le bon sens, la loi naturelle en fait, les coutumes aussi disent bien que la femme, pour bien montrer qu'elle rentre dans la vie de l'homme et pas l'inverse, la femme, l'épouse, va prendre le nom de famille de son époux. Bon, évidemment, dans le monde moderne, c'est encore quelque chose qui a été envoyé promener à la poubelle, et donc beaucoup de femmes modernes ne veulent plus prendre le nom de leur époux, c'est une erreur. Donc il faut bien montrer, justement, qu'on ne s'appartient plus. C'est pour ça aussi que les époux doivent porter fièrement leur alliance. Hein. Lorsque Un homme me dit, par exemple, au confessionnal, ben voilà, monsieur l'abbé, j'ai beaucoup de tentations au travail à cause d'une secrétaire qui me tourne autour. Je regarde tout de suite, si, quand je peux le voir, si l'homme porte son épouse. Et souvent, j'ai remarqué dans le monde moderne, beaucoup d'époux, surtout les hommes, ont pris l'habitude de ne plus porter leur alliance. Et je leur dis tout de suite, portez votre alliance. Ah, mais j'ai mes doigts en gros, si je rentre plus dedans. Eh bien, écoutez, faites tartailler par un bijoutier et portez votre alliance. Parce qu'il y a encore des femmes, quand même, heureusement, même non catholiques qui ont encore un peu d'honneur, et qui, ou des hommes, même non catholiques qui ont encore un peu d'honneur, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Et donc, avant de chercher à sortir ou tourner autour d'une femme, eh bien, il va quand même vérifier discrètement si cette femme est variée ou non. Et beaucoup d'hommes, et même de femmes, en voyant sur le doigt de la personne qui les intéresse une alliance, ils savent que cette personne est mariée, donc ils se gardent à distance. Donc. Mais cette phrase est importante. Il y a une obligation plus grande pour la femme de suivre son mari que pour le mari de suivre sa femme. Donc, l'épouse rentre dans la vie du mari. Hein. Et encore une fois, là, j'ai rencontré plusieurs fois des cas graves dans ce cas-là, d'épouses qui refusaient de suivre leur mari. Par exemple, imaginez un époux qui, pour des raisons professionnelles, se doit de déménager. Il part, il habite à tel endroit en France, professionnellement, il est muté ailleurs en France, donc il doit partir en France, dans une autre ville, un autre département, une autre région de France. Et j'ai connu des cas où les épouses disent « Ah, mais moi j'ai toutes mes amies ici, je refuse de suivre mon mari là-bas, qu'il aille tout seul. » Attention, non, là, il y a faute grave, parce que c'est la même chose que j'ai déjà expliqué. Dans ces cas-là, une épouse expose le mariage à des catastrophes, parce qu'elle refuse de remplir son devoir d'État. On se sanctifie là où le bon Dieu vous a placé, et pas à côté. Hein? Si le jardinier de notre âme, à savoir le bon Dieu, nous a placé une âme, c'est comme une petite fleur, il a placé telle fleur à tel endroit dans le jardin, eh bien il y a une raison, eh bien il faut rester là où le bon Dieu nous a placé, pas ailleurs. D'accord ? Alors, un autre article qui est important à cause de certaines erreurs qu'on entend souvent, j'ai entendu ça arrive. Les femmes qui se plaignent, monsieur l'abbé, c'est un vrai scandale, le bon Dieu, mon mari me demande du conjugal le samedi soir, alors qu'il sait que le lendemain, on va communier. Je me refuse toujours à mon mari parce que c'est un scandale d'avoir une relation sexuelle quelques heures avant de communier. Réponse, ce n'est pas un scandale du tout. Hein? Ce n'est pas un scandale du tout en soi parce que le duc conjugal, il n'y a pas de loi d'église qui interdise de demander le duc conjugal certains jours de l'année. Ça n'existe pas. Et on a parfois des gens qui disent ça, toutes les femmes. Ah ben, on n'a pas le droit d'avoir, ou même des hommes, on n'a pas le droit d'avoir de demander le duc conjugal les jours de vigile, pendant le carême, pendant l'avent, pendant certains jours de pénitence. Non, c'est totalement faux. Il n'y a aucune loi d'église sur ce sujet. Bon, on peut librement choisir de faire pénitence, ça c'est autre chose, mais il n'y a pas d'obligation. Saint Thomas donc répond qu'il n'est donc en soi, je pense que c'est comme ça qu'il faut répondre, en soi il n'y a pas de loi d'église qui interdise le devoir conjugal à certains jours. Alors attention à ceux qui se lancent dans l'étude directe de la somme, il faut que bien comprendre que parfois Saint Thomas, ça arrive assez souvent, commence à répondre à une question dans un article et va continuer sa réponse dans l'article suivant. L'exemple typique, c'est question 64, articles 5 et 6. Dans l'article 5 de la question 64 du supplément, Saint Thomas pose la question, est-il défendu de demander le devoir conjugal les jours de fête? Et dans la question, l'article 6 de la question 64, il précise les choses, comment commet-on un péché mortel en demandant le devoir conjugal un jour de fête? Alors, à la première question, est-il défendu de demander le devoir conjugal les jours de fête? Donc, saint Thomas répond, bien qu'il soit exempt de culpabilité, l'acte conjugal qui affaiblit la raison par suite du plaisir charnel qui provoque rend l'homme inapte aux choses spirituelles. Il n'est donc pas permis de le demander les jours où l'on doit vaquer principalement aux exercices spirituels. Hein? Si on n'est pas obligé de prier à chaque heure du jour de fête, on doit cependant se tenir toute la journée à l'état de le faire. Cependant, à l'article suivant, article 6, saint Thomas précise, il n'y a pas de faute mortelle pour le mari ou pour l'épouse à demander le devoir conjugal un jour de fête. Donc, on peut conclure qu'il serait dans certains cas peut-être plus vertueux de ne pas demander le dû conjugal certains jours, mais il n'y a aucune obligation sous peine de péché. C'est pour ça que saint Thomas le dit bien. Demander, voilà ce que dit saint Thomas, demander le devoir conjugal un jour de fête n'est pas une circonstance qui change l'espèce du péché. N'y a-t-il pas faute mortelle pour le mari et pour l'épouse à demander le devoir conjugal un jour de fête? Et même dans certains cas, il n'y a pas de faute du tout, même pas un péché véniel, surtout si l'époux, par exemple, demande le dû conjugal pour éviter les tentations, par exemple. Hein? Bon, maintenant, dans que des époux, avec l'accord de leur conjoint, un époux avec l'accord du conjoint, de la conjointe, souhaite certains jours de fête de ne pas demander du conjugal, ils peuvent le faire. Hein. Mais surtout dans le monde actuel, surtout pour les hommes qui sont, je dirais, littéralement envahis par les images impures, les esprits impurs, les impuretés qui sont partout dans le monde moderne, surtout pour les gens, les professionnels, les hommes qui sont obligés de travailler dans les bureaux modernes, c'est parfois impossible, et donc ils ont besoin de l'aide de l'épouse. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Encore une fois, je pense que si un époux, pour une raison proportionnée, demandait l'acte conjugal, même un jour de fête, à son épouse, et si son épouse refusait alors qu'elle sait que son mari va avoir plus de tentations à cause de son refus, eh bien, dans ce cas-là, il y aurait faute grave pour l'épouse. Cependant, bon, époux, mari et femme doivent pouvoir parler librement de ces sujets-là entre eux, et puis l'épouse aurait le droit de dire, ben écoute, voilà, écoutez, demain c'est la fête de Noël, c'est une grande fête, donc je souhaiterais que cette nuit nous n'usions pas du mariage pour mieux nous préparer à la communion. D'accord, mais c'est un conseil, ce n'est pas une obligation. Il faut distinguer les choses d'obligation, par exemple les commandements de Dieu, et les choses de conseil, par exemple les conseils évangéliques. Alors on entend parfois, il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur le sujet. Il y a des personnes, je ne donne pas de nom, mais des catholiques de tradition, c'est les vacantistes, qui prétendent que deux époux ont le droit de se demander le devoir conjugal que pour avoir un enfant. C'est-à-dire, voilà, nous voulons un enfant, donc nous faisons l'acte conjugal ensemble pour avoir un enfant. Et dès que l'épouse est enceinte, d'après certaines personnes, j'ai entendu des gens me dire ça, dès que l'épouse est enceinte, c'est fini, terminé, on n'a plus le droit de lui demander l'acte conjugal jusqu'à la possibilité d'un autre enfant. Donc c'est totalement faux. Hein? Et c'est pour ça, donc il faut encore une fois faire attention dans certains passages de saint Thomas, bien comprendre que les articles se complètent. C'est la même chose dans l'Écriture sainte d'ailleurs. On peut parfois prendre une phrase de l'Écriture sainte, et si on ne fait pas attention de la remettre dans son contexte, elle finit par dire le contraire de ce qui a été dit dans un autre passage de l'Écriture sainte. Et donc, il ne faut pas chercher à jouer avec ça. Il y a obligation, dit saint Thomas, de rendre le devoir conjugal lorsque l'autre le demande, même si c'est un jour de fête. Voilà la conclusion de saint Thomas d'Aquin. Alors, saint Thomas va maintenant parler d'un autre sujet, la bigamie. Alors, il faut distinguer entre la bigamie et le remariage. Le remariage d'un veuf après la mort de son épouse est parfaitement légitime. Le deuxième mariage est un sacrement également. La bigamie, c'est autre chose, c'est la polygamie. Bon, bigamie, polygamie, c'est un peu de synonyme. La polygamie et la bigamie, c'est la même chose. En fait, compte, c'est une personne qui prétend pouvoir avoir plusieurs épouses en même temps. Donc, ça se distingue de la polyandrie. Polyandrie, c'est une femme avec plusieurs hommes. Polygamie, un homme avec plusieurs femmes. Alors, les gens modernes commencent de plus en plus à dire que c'est une chose parfaitement légitime. Non, c'est faux. Ça va contre la loi naturelle, strictement parlant. Et saint Thomas répond en disant ceci: ce qui paraît appartenir au droit naturel, c'est que l'homme a reçu C'est ce que l'homme a reçu au moment de la création, de sa création. À ce moment-là, il a été établi que la femme serait l'épouse d'un seul homme. Ils seront deux dans une seule chair, dit le livre de la Genèse. La monogamie est donc bien de droit naturel. Donc, de droit naturel, le mariage consiste en l'union d'un homme et d'une femme, et pas de polygamie ni de polyandrie. Cet article 1 de la question 65 est important. La question 65, pardon, est important. Donc, après avoir dit que la monogamie est de droit naturel, un homme avec une femme, voilà ce que dit saint Thomas. L'homme a ceci de particulier, qu'il connaît la notion de fin et le rapport des opérations à leur fin. Aussi a-t-il reçu une connaissance naturelle qui le dirige pour agir convenablement, ce qu'on appelle la loi naturelle ou droit naturel. Alors que chez les autres animaux, on lui donne le nom d'estimative naturelle. En fait, c'est l'instinct. Donc il y a un instinct chez les animaux, et chez les animaux raisonnables, les hommes, il y a une loi naturelle. Lorsqu'une action ne convient pas à la fin, parce qu'elle empêche absolument la réalisation de la fin principale, elle est directement interdite par la loi naturelle en vertu des premiers principes de cette loi. Donc toute action qui s'oppose, par exemple, en soi, qui empêche l'arrivée éventuelle d'enfants, en soi, est faute grave. Encore une fois, je rappelle à ceux qui n'ont pas entendu les audios précédents qu'il faut bien compléter ce cours sur saint Thomas d'Aquin avec le catéchisme traditionnel que j'ai mis sur le site. Dans la section de catéchisme pour adultes, il y a toute une partie justement sur le sacrement de mariage à partir du Concile de Trente, à partir du catéchisme de saint Pie et qui explique en long, en large et en travers donc les lois de Pie XII. Donc, qui autorise entre deux époux, s'il y a une raison proportionnée, il parle de trois indications, l'intérêt d'une indication médicale, l'indication génique, l'indication économique et sociale, qui autorise l'usage de moyens naturels de contrôle des naissances. Donc, les personnes qui veulent plus de renseignements là-dessus, peuvent utiliser la lettre doctrinale qui est sur le site internet d'Anne Marie, la lettre numéro 12 sur la mentalité contraceptive et la conférence doctrinale qui correspond à cette lettre. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'intention de reprendre complètement le catéchisme sur le mariage, puisque ce n'est pas le but de ce cours. Le but de ce cours est d'expliquer la somme théologique de saint Thomas. Alors, donc je reprends ce que dit saint Thomas. Si une action, quelle qu'elle soit, s'oppose directement à la réalisation de la fin principale, elle est directement interdite par la loi naturelle. Si au contraire une action ne convient pas à la fin secondaire de quelque manière que ce soit, ou même à la fin principale parce que à cause d'elle la réalisation n'est plus difficile ou obtenue d'une manière moins convenable, cette action est interdite, non pas par les premiers principes de la loi naturelle, mais par les principes seconds qui dérivent des premiers, à la manière dont, dans l'ordre spéculatif, les conclusions tirent leur certitude de principes évidents par eux-mêmes. Et c'est à ce titre que l'on déclare cette action contraire à la loi naturelle. Donc on n'a jamais le droit, en tant que catholique, d'aller directement contre la fin première du mariage. C'est pour ça que tout usage d'une contraception chimique, par exemple, est absolument interdit entre époux. Et même l'usage, attention, il ne faut pas oublier ça, même l'usage d'une contraception naturelle entre deux époux sans une raison proportionnelle indépendante de votre volonté est absolument illégitime. Attention, ne croyez pas les prêtres qui vont vous dire, parce qu'il y en a qui disent ça, que Pie XII a autorisé l'usage des moyens naturels de contrôle des naissances. C'est vrai, mais il a posé des conditions. Et Pie XII dit expressément dans son texte, le discours aux sages-femmes d'octobre 1951, le pape Pie XII dit expressément que les époux n'ont le droit d'utiliser des méthodes naturelles de contrôle des naissances, c'est-à-dire ce qu'on appelle la méthode oginocnose, la méthode des températures, à savoir de n'avoir, s'il y a une raison proportionnée, dit Pie XII, de relation avec votre époux, avec votre épouse, que pendant les périodes anagénésiques de l'épouse, quand elle ne peut pas avoir d'enfant, à cause de sa stérilité naturelle d'une partie de son cycle, eh bien, il faut une raison proportionnelle. Soit, encore une fois, l'indication médicale, soit l'indication eugénique, soit l'indication économique et sociale, c'est-à-dire quand les conditions de vie sont telles qu'il n'est pas raisonnable pour les époux d'avoir un enfant à ce moment-là. C'est le cas, par exemple, imaginez un homme qui a perdu son travail, bon, il n'est pas raisonnable d'avoir un autre enfant, donc il est dans l'indication économique et sociale. Une épouse qui est malade, une épouse, par exemple, qui est obligée de garder le lit pendant des mois, si elle est enceinte, elle a encore des petits-enfants à la maison, des enfants tout petits, des bébés à la maison, eh bien, il n'est pas raisonnable peut-être qu'elle ait encore un enfant à ce moment-là. Pie XII admet ces choses-là. S'il y a une raison proportionnée, dans ce cas-là, les époux peuvent utiliser un moyen naturel de contrôle des naissances. Mais s'il n'y a pas de raison proportionnée, c'est absolument interdit sous peine de péché grave, et il n'est jamais autorisé d'utiliser une méthode chimique de contrôle des naissances. Pour que les choses soient claires. Encore une fois, je vous renvoie sur les textes du pape Pie XI dans l'encyclique Casticonubi et le texte de Pie XII dans l'encyclique, dans le décret, le discours aux sages-femmes. Et qu'on ne vienne pas de me dire que le pape Pie XII dit le contraire de ce que dit le pape Pie XI, puisque le pape Pie XII et le pape Pie XI, dans leurs deux textes, Casticonubi pour Pie XI et discours aux sages-femmes de Pie XII, dans les deux cas, il parle sous la foi des mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église. Donc, ce sont deux textes infaillibles. Il n'est pas possible que deux textes infaillibles, même de deux papes différents, puissent être en contradiction. C'est absolument impossible. Et donc, les traditionalistes qui se donnent le droit de prétendre que le pape Pie XII s'est trompé dans ce domaine, alors qu'ils le reconnaissent en plus comme pape, c'est absolument inadmissible. On ne peut pas accepter ça. Donc, Saint Thomas d'Aquin, je vous donne la phrase importante. Lorsqu'une action ne convient pas à la fin parce qu'elle empêche absolument la réalisation de cette fin, elle est directement interdite par la loi naturelle, en vertu des premiers principes de cette loi, surtout si c'est la fin principale du mariage. Donc le mariage, rappelle Saint Thomas, a pour fin principale la procréation et l'éducation des enfants. Et le mariage a aussi pour fin secondaire la mise en commun des travaux nécessaires à la vie. Donc c'est l'amour mutuel entre les deux époux, entre autres, et c'est également le remède à la concupiscence. Donc c'est pour cela que les époux se doivent une fidélité réciproque qui est l'un des biens du mariage. Rappelez-vous les trois biens du mariage, les enfants, la fidélité, le sacrement. Donc le mariage entre chrétiens, attention, il faut se rappeler que lorsque Saint Thomas d'Aquin utilise le mot chrétien, aujourd'hui dans le monde moderne, en 2019, il faudrait traduire par catholique, hein. Parce que le mot chrétien en français aujourd'hui a un sens complètement différent. Beaucoup de gens prétendent que les protestants sont des chrétiens, par exemple. Donc quand ils parlent de mariage chrétien, ils veulent dire mariage catholique. Mariage entre chrétiens, ils veulent dire mariage entre catholiques. Donc je répète les trois phrases importantes. Le mariage a pour fin principale la procréation et l'éducation des enfants. Le mariage a pour fin secondaire la mise en commun des travaux nécessaires à la vie, et enfin, le mariage entre catholiques a encore une autre fin qui est de symboliser l'union du Christ et de l'Église. Et c'est pourquoi le sacrement est également compté parmi les biens du mariage. Rappelez-vous, les trois biens du mariage, les enfants, la fidélité et le sacrement. Bon, la première fin, c'est un texte très important ici, la première fin du mariage convient donc au mariage de l'homme considéré comme animal, la seconde à l'homme en tant qu'homme, la troisième en tant que chrétien. Bon. Donc, la fin principale, c'est la procréation et l'éducation des enfants. La fin secondaire, Saint Thomas classe les choses de façon un petit peu différente. La fin secondaire, c'est la mise en commun des travaux nécessaires à la vie. Et enfin, le mariage symbolise aussi l'union du Christ et de l'Église. Alors, la première fin convient donc au mariage de l'homme considéré comme animal. L'homme est un animal raisonnable. Donc la fin principale, qui est la procréation et l'éducation des enfants, correspond justement également à l'homme comme animal. La seconde en tant qu'homme, la troisième en tant que chrétien. Donc voilà, il va expliquer ensuite, donner les détails. La pluralité des épouses ne supprime pas complètement, ni même n'empêche en quelque façon, la fin première du mariage, puisqu'un seul mari suffit pour féconder plusieurs épouses et élever les enfants. Et par contre, explique Saint Thomas, si elle n'est pas un obstacle absolu à la fin secondaire du mariage, elle en gêne cependant considérablement la réalisation. La paix peut en effet difficilement régner dans une famille où plusieurs épouses sont unies à un seul mari, car il ne pourra pas les satisfaire toutes selon leurs désirs. Quant à la troisième fin du mariage, la polygamie la supprime totalement, puisque comme le Christ est un, l'Église, elle aussi, est une. Donc, je répète les trois phrases de saint Thomas. Le mariage a pour fin principale la procréation, l'éducation des enfants. Ça, c'est la partie naturelle, donc qui correspond à l'homme considéré comme animal. Deuxième phrase de saint Thomas, le mariage a pour fin secondaire la mise en commun des travaux nécessaires à la vie. Ça correspond à l'homme en tant qu'homme. Et la troisième phrase, le mariage entre chrétiens, encore la fin qui est de symboliser l'union du Christ et de l'Église. Ça correspond à l'homme considéré comme chrétien. Donc, la polygamie, confusion, est donc contraire à la loi naturelle sous un rapport et ne lui est pas opposée sous un autre. Donc, un homme qui a plusieurs épouses pourrait éventuellement donner des enfants à chacune épouse. Ça, c'est possible. Mais la loi, la polygamie, est contre la loi naturelle. Donc, ça, c'est la conclusion très importante de saint Thomas. La monogamie est un droit naturel. Puisque la monogamie est des droits naturels, donc la polygamie va contre la loi naturelle. Strictement parlant. Alors, au début de l'histoire de la création, l'histoire du monde, Dieu avait donné dispense à cette loi naturelle, à ce droit naturel, pour que la terre puisse être peuplée. Mais cette dispense n'a pas duré. Donc, il serait tout à fait pécamineux aujourd'hui pour des gens de dire, puisque Abraham avait plusieurs femmes, donc je me permets de pratiquer la polygamie. Non, c'est impossible. On ne pourrait pas faire ça. Une des conclusions qu'on pourrait donner, c'est la suivante. Saint Thomas d'Aquin le dit bien. Pour le mariage, le mari ne donne pas à son épouse un pouvoir absolu sur son corps, mais un pouvoir limité à ce qui exige le mariage. Donc, attention, l'époux ne peut pas demander n'importe quoi à son épouse. De même, la réciproque est aussi vraie. Enfin, le problème souvent se pose au niveau du mari, qui a parfois tendance à demander à son épouse des choses qu'il n'a pas le droit de demander. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est des choses qu'on voit plus facilement en confessionnal. Pour des raisons de pruderie naturelle, il n'est pas très bon pour un prêtre de donner tous les détails. Cependant, je me permets de vous rappeler une règle que je vous ai déjà donnée. Votre épouse, en parlant aux hommes, votre épouse n'est pas votre prostituée privée. Avant, dans le Moyen-Âge, on disait que les choses qu'un mari ne demanderait jamais à son épouse légitime, qu'il ira demander une prostituée. Ça prouve bien qu'il y a un respect que l'homme doit avoir pour son épouse, mais qu'il ne va pas avoir forcément pour une prostituée. Or, l'épouse n'est pas la prostituée du mari. C'est le cœur de la famille. Donc, j'aime beaucoup une expression qui n'existe pas en français. J'aimais beaucoup cette expression aux États-Unis. C'est là où je l'ai entendu très souvent. Lorsqu'un époux catholique parlait de son épouse, il parlait de sa « better half ». Ça veut dire en français « de ma meilleure moitié ». Mon épouse, c'est ma meilleure moitié. J'aimais bien l'expression. Donc, saint Thomas précise « envisager comme remède à la concupiscence ». Et c'est là sa fin secondaire. Le mariage exige que le devoir conjugal soit en tout temps rendu à celui qui le demande. Donc on revient sur les mêmes règles. Quant à l'éducation des enfants, n'oubliez pas que la fin principale, c'est pas simplement la procréation des enfants, c'est aussi l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, elle est rendue totalement impossible, car si une femme avait plusieurs maris, on ne pourrait plus savoir avec certitude quel est le père de l'enfant. Et cependant, les soins du père sont nécessaires pour assurer l'éducation de celui-ci. Un mariage catholique, c'est l'union entre un homme et une femme, pas deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, comme le disent les modernes. C'est pour cela qu'aucune loi ni coutume n'ont jamais autorisé la polyandrie, une femme avec plusieurs hommes, tandis qu'elles ont parfois permis la polygamie, un homme avec plusieurs femmes. C'est en retour la dérogation qui avait été accordée par Dieu au début de la création de l'humanité. Donc il va expliquer ça d'ailleurs en question 65, l'article 2. La polygamie a-t-elle pu être parfois permise? C'est la réponse à ce que je viens d'une objection qu'on entend souvent. La polygamie a parfois été permise. Donc, avant d'expliquer cet article, je rappelle que la polyandrie, c'est une femme avec plusieurs hommes. Donc, une femme avec plusieurs hommes ne peut pas savoir quel est le père de l'enfant qu'elle porte. Par contre, la polygamie, c'est un homme avec plusieurs femmes. Donc là, dans ce cas-là, la femme peut savoir de façon certaine qui est le père de son enfant. C'est pour ça que saint Thomas dit que aucune loi ni coutume n'ont jamais autorisé la polyandrie, une femme avec plusieurs hommes, tandis qu'elles ont parfois permis la polygamie, un homme avec plusieurs femmes. Et donc, ensuite, il précise donc, il va rappeler l'exemple des patriarches, dont plusieurs, d'après l'écriture, étaient polygames, et qui furent cependant très agréables à Dieu. Je pense par exemple à Abraham, qui avait plusieurs épouses, tel Jacob, David et plusieurs autres. C'est donc que la polygamie a parfois été permise. Donc, pourquoi saint Thomas va donner la réponse? La polygamie est contraire non pas au précepte naturel de la loi naturelle, au précepte de la loi naturelle, mais au précepte secondaire, qui sont comme des conclusions découlant des premiers. Cette inspiration donc de polygamie a été reçue surtout par les patriarches et par leur exemple, elle s'est communiquée aux autres hommes à l'époque où il fallait ne pas observer ce précepte de la nature pour favoriser la multiplication des enfants destinés au peuple de Dieu. Toutefois, en effet, il faut rechercher la fin principale avant la fin secondaire. La fin principale du mariage étant le bien des enfants, il a fallu, à l'époque où leur multiplication était nécessaire, négliger momentanément l'obstacle qui pouvait gêner l'obtention des fins secondaires, obstacle dont la suppression est précisément le but de la loi qui interdit la polygamie. Donc c'était une dispense provisoire donnée par Dieu au premier patriarche. Alors, il est évident que la loi naturelle et la loi divine interdisent d'avoir une concubine. N'oubliez pas qu'une des conditions substantielles pour la validité du contrat matrimonial, c'est l'unité, un homme et une femme. Donc pas un homme et une femme plus une autre cachée dans un placard quelque part, non pas une femme plus un homme avec un homme plus un autre homme caché quelque part dans un autre placard, non, un homme et une femme. Donc le mariage est une institution naturelle, dit saint Thomas. Cela ne serait pas si l'homme pouvait s'unir à une femme en dehors du mariage sans enfreindre la loi naturelle. Il est donc contraire à la loi naturelle d'avoir une concubine. Quiconque donc use du commerce charnel pour le plaisir qui est attaché sans le référer à la fin que la nature a en vue agit donc contre la nature. Il en va de même lorsqu'il s'agit des relations sexuelles qui ne sont pas susceptibles d'être ordonnées à cette fin de manière convenable. Le bon Dieu a voulu associer à certains actes légitimes un certain plaisir. Par exemple, il a voulu associer à la nourriture un plaisir. Donc, ce n'est pas un péché d'apprécier un bon repas. Bon, le péché va intervenir quand la chose se fait de façon déréglée, déraisonnable, contre la raison. Bon, ce n'est pas un péché de manger pour vivre, mais c'est un péché de vivre pour manger. C'est la même chose pour le plaisir que le bon Dieu a attaché à l'acte conjugal entre deux époux légitimes. Donc, profiter de ce plaisir naturel voulu par le bon Dieu dans l'acte conjugal n'est pas un péché. Mais de vouloir simplement le péché en coupant complètement, vouloir le plaisir, mais en coupant complètement le plaisir de la fin systématiquement, là il y a faute grave. Il est donc évident qu'il est contraire à la loi naturelle d'avoir des rapports charnels avec une femme qui ne vous est pas unie par les liens du mariage qu'on appelle une concubine. Lui s'est toujours battu contre ça au cours des siècles. Alors, saint Thomas va ensuite se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est un péché mortel que d'avoir un rapport avec une concubine? Il y a des pays dans lesquels le concubinage est courant, même au temps du Moyen-Âge, et où dans certains pays, même au temps des temps anciens, les concubines officielles ou officieuses étaient de coutume. Par exemple, c'était le cas en Extrême-Orient, en Chine, en Japon, avant l'arrivée avant que le christianisme arrive dans ces pays-là, eh bien, il y avait les concubines officielles du roi, les concubines officielles du prince. Eh bien, c'est quelque chose d'absolument inacceptable, c'est contre la loi naturelle. C'est une des raisons pour laquelle, lorsque le christianisme est arrivé, c'est terminé par un bain de sang. Il y a eu des martyrs en pagaille, entre autres à cause de ça. Le péché mortel exclut du royaume des cieux, précise saint Thomas. Les fornicateurs en sont exclus. Donc la fornication est un péché mortel. Puisque les relations concubinaires détruisent le rapport nécessaire entre parents et enfants, que la nature a en vue dans l'acte conjugal, dans l'acte sexuel, il est indubitable que de sa nature, la fornication est un péché mortel, lors même qu'aucune loi écrite ne l'interdirait. Oui, saint Thomas est très clair sur ce sujet. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des cas où Dieu permettrait d'avoir une concubine? Voilà ce que répond saint Thomas. Ce qui est contraire au décalogue n'a jamais été permis. Or, on ne peut avoir une concubine sans désobéir à ce précepte du décalogue, tu ne commettras pas d'adultère. C'est le sixième commandement. Celui-ci ne fut donc jamais permis. Lorsque le bon Dieu avait donné la permission de la polygamie au patriarche, ce n'était pas une concubine, c'était des femmes légitimes. Donc, il y avait l'autorisation d'avoir plusieurs épouses légitimes. Mais la concubine, donc pour satisfaire des plaisirs en dehors du mariage, sont tout à fait, le fait d'avoir une concubine est parfaitement interdit par la loi naturelle. Alors, je passe après rapidement sur la bigamie et l'irrégularité qui en résulte, parce que là, on rentre dans le droit canonique pur. Encore une fois, il y a eu des modifications par le pape Pie XII. Donc je cite simplement certaines phrases de ces passages de saint Thomas. Le sacrement de mariage symbolisant l'union du Christ avec l'Église, union par conséquent d'un seul époux avec son unique épouse, il est nécessaire pour la signification parfaite de ce sacrement que l'époux n'ait qu'une seule femme et que l'épouse n'ait qu'un seul mari. Donc voilà pourquoi la bigamie qui empêche qu'il en soit ainsi produit une irrégularité. Il n'y a rien de plus opposé à la spiritualité que la concupiscence par laquelle l'homme tout entier devient charnel. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il est très difficile, quand on est dans les plaisirs sexuels, même légitimes, de prier. Pas tout faire en même temps. La pluralité successive des épouses, au contraire, ne produit qu'une multiplicité relative. Elle ne détruit donc pas totalement la signification sacramentelle, elle ne fait pas disparaître ce qui est essentiel au sacrement. Elle en altère seulement la perfection qui est exigée chez les dispensateurs des sacrements. Donc la bigamie, avoir plusieurs épouses en même temps, mais absolument contre la loi naturelle. Par contre, de se remarier après veuvage n'est pas quelque chose d'interdit par la loi. Alors, je passe sur les parties qui n'ont plus cours actuellement, entre purement canoniques. Saint Thomas, par exemple, se pose la question de toute une série d'articles sur, attendez, je reprenne ça, sur la bigamie qui consiste dans la possession simultanée ou successive de deux épouses. L'une légitime, l'autre illégitime, est-ce que ça produit l'irrégularité, etc. Donc je passe là-dessus parce que là ce sont vraiment des détails canoniques qui n'ont pas d'importance pour vous actuellement dans ce cours. Encore une fois, ce n'est pas un cours de droit canon que je vous donne, c'est un cours d'explication de la somme de saint Thomas d'Aquin. Alors, il y avait par exemple avant une irrégularité pour quelqu'un qui prenait une épouse qui avait perdu sa virginité. Ce n'est plus le cas actuellement. Saint Thomas, enfin jusqu'à dire, il a raison que l'irrégularité provient que le. Attendez, la question est la suivante, la question 66, article 4, la bigamie est-elle détruite par le baptême? Donc le baptême donne des obligations, et j'en ai déjà parlé auparavant, si une personne est polygame, a plusieurs épouses ensemble, un païen, donc polygame, plusieurs épouses ensemble, il est baptisé, il ne peut garder qu'une seule de ses épouses, ou, selon le texte de Pie XI, ou il peut toutes les renvoyer en choisir une autre. Alors, rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, que la polygamie va maintenant contre la loi naturelle, est inacceptable, mais par contre, le remariage après veuvage n'est pas quelque chose d'interdit par l'Église. Alors, Des choses importantes, la question 67 de la lettre de divorce. On arrive à la fin de ce traité, je vais essayer de le terminer. L'indissolubilité du mariage est-elle de droit naturel? Le mariage, il fait deux choses importantes, l'unité et l'indissolubilité. L'indissolubilité veut dire pas de remariage, tant que l'épouse légitime ou l'époux légitime est encore vivant ou vivante. Et l'unité, c'est un homme avec une femme. Donc ça va contre le concubinage, l'adultère. Non. Voilà ce que dit saint Thomas. Donc il se pose la question de savoir si l'indissolubilité du mariage est de droit naturel. Il répond positivement. L'indissolubilité du mariage vient de ce que Dieu a uni les époux. On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc il semble que le mariage, l'indissolubilité du mariage est donc de droit naturel. Alors, il peut y avoir, dans certains cas, j'ai déjà expliqué, une répudiation de l'époux ou de l'épouse. Mais une répudiation pour une faute grave, entre autres, c'est, en général, c'est causé par l'adultère, c'est valable aussi pour l'époux. Il peut y avoir une séparation, mais une séparation ne donne jamais la possibilité de se remarier. Parfois, on entend des personnes qui disent « Monsieur l'abbé, mon mari m'a trompé, mon mari a des maîtresses, je le quitte et je me remarie. » Non, madame, vous êtes toujours mariée. Ah, mais il a manqué tous ses devoirs. Il a manqué tous ses devoirs, mais vous êtes toujours mariée et votre époux est toujours vivant. Tant qu'il est vivant, vous ne pouvez pas vous marier. Alors, on peut, une raison grave peut autoriser un homme et une femme à se séparer, voire même un homme de renvoyer son épouse. Mais il faut qu'il y ait une raison proportionnée, ça ne lui donne pas le droit, en aucun cas, aucune circonstance, de se remarier. Donc, cet homme a conclu en disant que l'indissolubilité n'appartient qu'à la seconde intention du mariage, si on le considère comme une institution naturelle, mais il fait partie de sa première intention en tant que sacrement de l'Église. Aussi, depuis que le mariage a été institué comme sacrement de l'Église, et tant que durera cette institution, il ne peut y avoir dispense de son indissolubilité. Alors, lorsque la loi de Moïse permettait la répudiation de l'épouse pour une raison grave, elle n'autorisait pas cette lettre de divorce, cette lettre de répudiation n'autorisait en aucun cas un remariage. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Notre Seigneur nous dit que la lettre de divorce avait été accordée aux Juifs par Moïse à cause de la dureté de leur cœur. Or, cette dureté de cœur ne les excusait pas de péché. Ils n'étaient donc pas davantage excusés par la loi sur la lettre de divorce. Ils n'avaient aucun droit de se remarier. N'oubliez pas que quand vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire. Et donc, saint Thomas insiste. C'est à l'article 4 de la question 67. Est-ce que l'épouse renvoyée peut prendre un autre mari? Saint Thomas répond en citant saint Matthieu, celui qui épouse une femme renvoyée comme un adultère. Donc l'épouse renvoyée ne peut en aucun cas prendre un autre mari. Elle est toujours mariée tant que son mari légitime est vivant. Encore une fois, il est important pour deux époux comprendre que, vous le savez bien mieux que moi, que le mariage n'est pas une partie de plaisir, et qu'on est marié vraiment pour le meilleur et pour le pire. Bon, et quand c'est le meilleur, c'est facile. Quand c'est le pire, c'est plus difficile. C'est là où il faut justement savoir écouter, savoir parler, penser à l'autre avant de penser à soi-même. Tant qu'un époux pensera à son épouse avant de penser à lui-même, le mariage tiendra. Tant que l'épouse pensera à son époux avant de penser à elle-même, le mariage tiendra. Alors, les pères disent que la lettre de répudiation avait été autorisée par Dieu pour éviter le meurtre de l'épouse dans le cas où deux personnes qui se disputaient tout le temps, vous devez absolument rester ensemble. La cause prochaine de l'homicide est la haine, et la haine était la cause prochaine du renvoi. Alors, j'avance dans ces dernières questions sur les enfants illégitimes. C'est la question 68. Donc, tous les enfants qui naissent hors mariage naissent contrairement à la loi. Ils sont donc illégitimes. Cependant, il faut savoir que le mariage subséquent, le mariage religieux, imaginez deux personnes qui vivent en concubinage, deux personnes, catholiques, baptisées, qui vivent dans le concubinage, qui ont des enfants. Les enfants sont illégitimes, puisque ces deux personnes étant baptisées, étant catholiques, sont tenues par la loi canonique du mariage. S'ils régularisent leur situation par le mariage, les enfants sont ipso facto légitimés. Alors, pour ceux qui de bonne foi contractent mariage devant l'Église malgré l'existence d'un empêchement qu'ils ignorent, ne commettent aucune faute et leurs enfants ne sont pas illégitimes. J'ai connu un cas comme ça. personnes que je connaissais. En discutant avec ces gens que je connaissais très bien, en discutant avec eux, une fois j'étais invité chez eux, je me suis rendu compte qu'il avait eu dans ce cas-là un cas d'empêchement d'irriement. Bon. Et j'ai posé des questions, mais de façon très discrète. Et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient jamais reçu de dispense pour cet empêchement d'irriement. Donc ils n'étaient pas mariés devant l'église. Mais ils étaient mariés depuis, je ne sais pas combien, 30 ans. Ils avaient des grands-enfants, etc. Donc j'ai bien sûr laissé ces époux dans leur bonne foi. Je ne leur ai jamais dit qu'ils n'étaient pas mariés légitimement. Et j'ai contacté directement, c'était il y a très longtemps, au moins 30 ans, j'ai contacté directement l'évêque du lieu. Pour expliquer le cas, dire qu'un curé de chez lui qui n'avait pas fait son boulot il y a une trentaine d'années, et il a accordé ce qu'on appelle une sanatio in radice, c'est-à-dire une guérison à la racine pour permettre à ce mariage de nouveau d'être valide, hein, depuis le début. Hein, c'est des fictions canoniques. Alors, il est évident qu'il faut faire attention à ça, que donc des enfants illégitimes, même si légalement, devant le gouvernement de M. Macron, les enfants illégitimes ont les mêmes droits que les enfants légitimes, c'est en soi pas du tout normal. Ceux qui naissent de relations illégitimes, en soi, ne devraient pas avoir part à l'héritage paternel parce que justement, ils sont illégitimes. Donc, on ne peut pas, en aucun cas, considérer un mariage illégitime, une fornication de manière légitime. C'est un péché, c'est quelque chose d'inadmissible. C'est pour ça que malheureusement dans les familles, imagine une famille avec quatre enfants déjà adultes, et puis il y a un des enfants qui vit en concubinage. Bon, eh bien, l'enfant qui vit en concubinage, enfant qui est devenu un adulte, qui vit en concubinage, eh bien, il n'est pas marié légitimement. Donc les enfants qui naissent de cette fausse union, cette union illégitime, n'ont aucun droit à l'héritage, strictement parlant, l'héritage des grands-parents, donc des parents du père. Tout simplement parce que ces enfants sont illégitimes. Et donner les mêmes droits à un vrai ménage et à un faux ménage, c'est une injure épouvantable contre la justice et contre Dieu lui-même. On ne peut pas jamais, vous n'avez jamais le droit en tant que parent de considérer de la même façon un enfant qui vit légitimement, qui est marié légitimement, avec un enfant qui vit de façon illégitime. Attention, l'enfant qui vit de façon immorale parce qu'il vit en concubinage ou en adultère, c'est toujours votre enfant, vous devez l'aimer, mais vous ne devez pas accepter le péché. Donc, on accepte le pécheur, mais pas le péché. Et donc, si cet enfant, cet adulte, enfant adulte, vient à la maison avec sa concubine. Bon, on peut dans certains cas le recevoir si vous pensez que passer une après-midi ensemble peut peut-être aider à ce que les choses se régularisent, très bien, mais on n'a jamais le droit de les mettre dans la même chambre, même s'ils vivent ensemble depuis 30 ou 40 ans, parce qu'ils sont illégitimement unis. Hein? Voilà ce que dit saint Thomas, on peut subir un dommage de deux manières. Tout d'abord en étant privé de ce qui vous est dû, et de cette manière l'enfant illégitime ne subit aucun dommage. Ensuite, parce qu'on n'a aucun droit sur ce qui, en d'autres circonstances, vous aurait été dû. De la sorte, le fils illégitime subit un double détriment. Il est exclu des actes légitimes, tels que les offices et les dignités, qui exigent chez ceux qui en sont revêtus une certaine honorabilité. Il est en outre exclu de la succession paternelle. Donc un enfant illégitime, ce n'est pas de sa faute du tout. Par exemple, un enfant illégitime, un adulte qui est enfant illégitime, ne peut pas devenir prêtre, strictement parlant. Il peut y avoir des dispenses qui soient accordées par l'Église, mais en principe, un enfant illégitime ne peut pas accéder au sacerdoce. Alors, cette illégitimation est légitimée, un enfant illégitime devient légitime par le mariage subséquent, la régularisation subséquente du mariage. Le fils illégitime peut donc être légitimé. Voilà, nous avons ainsi terminé ce traité sur le mariage. Donc, encore une fois, rien ne vous empêche d'aller directement chercher les textes de saint Thomas lui-même. Donc, j'ai un peu résumé tout ça. Nous avons donc terminé le traité sur le mariage et la prochaine fois, si Dieu veut. Donc, nous attaquerons le dernier traité du supplément, dernier traité du supplément, qui est le traité qu'on appelle De Novissimis, c'est-à-dire sur les fins dernières. Ce traité, ce dernier traité de la Somme théologique de saint Thomas, et dernier traité aussi du supplément, va couvrir les questions 69 à 99. Donc c'est un traité assez important. De Novissimis, les fins dernières, donc on va surtout parler de la situation de l'âme séparée du corps, de la mort, des peines du purgatoire, des peines de l'enfer, du paradis, etc. C'est un traité très intéressant que nous commencerons à étudier, si Dieu veut, la prochaine fois. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.